Radio Classique, les spécialistes.
7h40 sur Radio Classique, trop de Français ne peuvent plus bien vivre face à des prix qui montent, qu'il s'agisse du plein, des courses ou de la cantine. L'augmentation des prix pèse sur nos vies. Les mots d'Emmanuel Macron hier lors de son allocution télévisée, les quelques mots, si je puis dire, du chef de l'État pour évoquer l'inflation, la vie chère et le pouvoir d'achat. Bonjour Philippe Moati.
Bonjour.
Vous êtes économiste, cofondateur de l'Observatoire Société et Consommation. Deux phrases du chef de l'État sur l'inflation et le pouvoir d'achat, deux phrases sur 13 minutes d'intervention. Vous avez été surpris?
Pas plus que ça. C'était pas l'objectif premier d'ailleurs de cette allocution. Et je crois que ça va pas apaiser les craintes que les Français ressentent par rapport à ce sujet-là. Et par ailleurs, il y avait une grosse attente par rapport au sujet principal qui était la réforme de la retraite. Et là, je crois que le compte n'y est pas, quoi.
Mais aujourd'hui, le pouvoir d'achat est de loin la principale préoccupation des Français. On attendait le chef de l'État sur ce thème. On attendait, j'allais dire, quand même du concret. C'est pour vous quelque part un aveu d'impuissance sur la principale angoisse des Français?
Mais oui, parce qu'il va y avoir un petit hiatus entre ce désir de soutenir les Français dans cet épisode un peu difficile, hein, et notamment en bas de l'échelle des revenus, des indicateurs extrêmement inquiétants. Hein. Dans nos enquêtes, on voit clairement monter la proportion de Français qui ont vraiment du mal à boucler les fins de mois.
Ouais.
On a même un indicateur qui nous inquiète beaucoup. On interroge sur l'intensité des restrictions sur les dépenses alimentaires pour des raisons financières. Et là, la dernière mesure qu'on a faite de cet indicateur en fin mars, hein, 13% des Français s'imposaient des restrictions très fortes sur l'alimentaire. Et c'est un indicateur en forte croissance et évidemment très concentré sur le bas de l'échelle des revenus. Donc là, il y a une demande très forte. Comment on peut venir au secours des Français sur le pouvoir d'achat lorsque simultanément, on cherche à réduire les dépenses publiques? Et d'ailleurs, l'INSEE ne s'y trompe pas. Les prévisions de l'INSEE pour le premier semestre nous donnent une diminution du pouvoir d'achat de près de 1%. Donc ça veut dire qu'on n'est pas sorti de cet épisode de tension sur le niveau de vie des Français.
On sait que le pic d'inflation n'est pas atteint, que la baisse des prix ne se fera pas avant l'été, au mieux d'ailleurs.
Oui. Et notamment, le poste le plus inflationniste et le poste qui touche le plus durement les Français, c'est l'alimentaire. On est à 16% d'inflation en glissement annuel, c'est colossal. Ça pèse lourd sur le budget des familles les plus modestes, et puis l'impact psychologique est considérable, parce qu'on est confronté tous les jours à cette inflation. On a quelques prix en tête de produits qu'on achète couramment, et on observe bien effectivement que ça grimpe. Donc l'impact économique est réel, et l'impact psychologique est encore plus fort.
Avec l'Observatoire Société et Consommation, vous vous répartissez les Français en 5 catégories, les oppressés, les méfiants, les prudents, les résolus, les sereins. Les sereins, c'est moins d'un Français sur 10 aujourd'hui.
Oui.
Les oppressés et les méfiants, c'est pratiquement 60%.
Oui. Et ça s'accompagne d'un désir de changement dans l'organisation de la société. Là aussi, c'est un indicateur qu'on suit régulièrement et qui est extrêmement inquiétant, puisque nous avons 92% de Français qui attendent des changements importants dans l'organisation de la société, et parmi eux, 24% qui attendent des changements radicaux.
Ouais.
Radicaux. Et ensuite, quand on leur demande s'ils pensent que le pouvoir politique est en mesure de répondre à ces aspirations, là, ils sont extrêmement minoritaires à penser que oui, plutôt au centre de l'échiquier politique d'ailleurs. Et au final, on a un chiffre qu'il faut méditer, hein, 51% des Français qui nous disent que s'attendre à la nécessité d'actions violentes.
Un Français sur deux.
À des actions violentes pour faire entendre au corps politique les désirs du peuple.
Vous parliez de l'alimentaire précédemment. Aujourd'hui, dans toutes les enquêtes, hein, les caddies sont moins remplis. Je crois que c'est pratiquement moins 10% en janvier et mars 2023.
Et ça, c'est inédit. C'est inédit. On a connu des épisodes de tension sur le pouvoir d'achat qui provoquaient des arbitrages entre les postes budgétaires, des choses bien connues. Mais là, on a une baisse des volumes consommés, achetés dans les grandes surfaces alimentaires, qui témoignent c'est la conséquence de ce que j'évoquais tout à l'heure, des restrictions sur l'alimentaire. On est obligé de se serrer la ceinture. Alors, à différents niveaux, hein, on va acheter des produits moins chers, on va acheter moins de viande plus d'œufs, on va acheter des marques de distributeurs plutôt que des grandes marques. Mais au final, on a aussi une part des Français qui nous dit d'acheter moins parce qu'ils mangent moins.
Quels sont les produits qui aujourd'hui sont délaissés par les Français?
Les produits frais, les produits qui coûtent le plus cher. Donc les fruits et légumes, la viande, bien évidemment, le poisson. Le marché du poisson s'est effondré parce qu'on va essayer d'arriver à tenir la contrainte budgétaire en achetant des produits qui coûtent moins cher. Et c'est mal ressenti parce que, notamment dans nos enquêtes sur le long cours, hein, on observe un très fort désir des Français de manger sain. Et ça travers traverse toutes les catégories de la population. Donc la qualité avant le prix. D'ailleurs, on l'observait dans le passé, hein, une montée en gamme de ce qu'on mettait dans le caddie.
Ouais.
Et là, à chaque vague d'enquête que nous réalisons, nous observons qu'une proportion croissante de Français est obligée de sacrifier la qualité pour acheter des produits qui tiennent dans le budget. Et ça, on le vit extrêmement mal.
Philippe Moiti, on a aussi chute des produits sur l'hygiène, on a aussi la chute des produits de luxe, la chute des plats cuisinés.
Le marché du luxe,
non, je parlais je parlais du champagne, par exemple.
Ah, d'accord.
On voit que la consommation, je crois, est en recul de 15%, par exemple, sur les spiritueux relativement chers. Voilà.
C'est ça, les produits un peu superflus. Ça a été les premières victimes des arbitrages en quantité, oui.
Le surgelé également qui chute, parce que le surgelé a besoin d'énormément d'énergie en fait dans sa fabrication, et ensuite d'ailleurs.
Exactement. Alors, un petit bémol, le marché des plats cuisinés qui était mal orienté se redresse, notamment peut-être grâce au télétravail.
Ouais. Lorsque vous voyez les cours du sucre qui ne cessent de grimper, comme d'autres matières premières, est-ce que vous êtes inquiet justement pour les mois qui viennent ?
Non, plutôt pas, parce que si on regarde en amont, effectivement, l'évolution du cours des matières premières, le prix de l'énergie, le prix du transport maritime, etc., tous ces coûts qui ont été à l'origine de cette poussée inflationniste sont plutôt orientés à la baisse, avec une toute petite remontée récemment, mais qui ne remet pas en question le diagnostic de la baisse. Donc on peut imaginer, d'ailleurs c'est un peu le consensus des économistes, qu'on devrait assister à un ralentissement de l'inflation. Attention, je rappelle que l'inflation mesure l'augmentation des prix. Donc même si on revenait à une inflation, disons à 2 ou 3%, ça ne veut pas dire que les prix allaient retrouver leur niveau d'avant cette poussée inflationniste. Mais le consensus est qu'on devrait commencer à assister à un reflux de l'inflation à partir du second semestre, modérément, plus sûrement en 2024.
Il y a forcément un décalage entre la baisse des prix des matières premières et les prix en rayon.
Ah oui, il y a un décalage temporel déjà. D'ailleurs, c'est bien ce qu'on est en train de subir, parce qu'on est en train de subir la montée des prix de détail consécutive à l'augmentation des prix en amont qui est derrière nous dans le passé. Mais il faut savoir que pour les produits alimentaires, les prix résultent de négociations qui s'opèrent entre les fournisseurs et les distributeurs qui se font en début d'année. Donc on est en train de faire passer dans les magasins des augmentations de prix qui résultent d'augmentations de coûts du passé. Je ne sais pas si je suis très clair, mais certainement que d'autres négociations vont être ouvertes en cours d'année, parce que dans ce contexte inflationniste, on ne peut pas se contenter de négociations une fois par an. Et donc, on devrait, et là on peut faire confiance dans les acheteurs des grandes surfaces, on devrait avoir une diminution des tarifs des industriels à la hauteur de la baisse des coûts. En tout cas, il faut l'espérer. Il faut surtout espérer que les entreprises, notamment les grandes, ne profitent pas de cet écran de fumée de l'inflation pour augmenter leurs marges. Et là, on a eu une enquête de l'INSEE il y a quelques semaines qui semblait indiquer que les entreprises, en tout cas certaines d'entre elles, ont profité de ce contexte pour augmenter les marges. Et donc là, ça nourrit l'inflation.
Emmanuel Macron, hier, a beaucoup parlé du travail. Il a aussi parlé des salaires. Est-ce que pour vous, il faut aujourd'hui augmenter davantage les salaires ?
Bien évidemment, pour protéger le pouvoir d'achat des Français, notamment des actifs, il faut augmenter les salaires. Il faut aussi augmenter les minima sociaux. La difficulté, c'est qu'il faut éviter de rentrer dans une boucle inflationniste, une spirale inflationniste où l'augmentation des coûts, notamment des coûts salariaux, favorise l'augmentation des prix. Je viens de dire que les marges des entreprises avaient augmenté aussi. Donc, il faut faire attention que, pour l'instant, on a une inflation qui est essentiellement due à l'augmentation des coûts des matières premières, du coût des intrants. Donc, c'est un déséquilibre entre l'offre et la demande sur les marchés. Ce déséquilibre est en train de se résorber. J'espère qu'on n'a pas enclenché un mécanisme réellement inflationniste où l'augmentation structurelle des coûts provoque une augmentation structurelle des prix. Et de ce point de vue-là, il y a un indicateur de l'INSEE qui est un tout petit peu inquiétant, ce qu'on appelle l'inflation sous-jacente. C'est-à-dire quand on élimine les prix qui fluctuent régulièrement, l'inflation sous-jacente est élevée actuellement. Donc il faut faire attention, on est dans un moment critique où ce qui était une inflation de déséquilibre pourrait devenir une véritable inflation monétaire. Et c'est pour ça qu'augmenter les salaires, oui, évidemment, parce que ça correspond à une demande sociale. L'effet pervers qu'on risque d'avoir, c'est de passer à une inflation structurelle.
Merci Philippe Moiti d'avoir répondu à mes questions. Professeur d'économie à Paris 7 et cofondateur de l'Observatoire Société et Consommation. Dans un instant, le journal imprévisible de Marc Bourreau. Marc, et un hommage ce matin à un humoriste qui nous a quitté en 1988. Si je vous dis étonnant, non, je pense que vous avez une petite idée. Il est 7h49.